philosophie de la matière par le père Philippe Arimont, 15 décembre 1989, deuxième cours.
Alors, je regrette qu'on vient de me rappeler, et c'est tout à fait juste, que la définition du mouvement est donnée au livre 3, et non pas au livre 5. Alors, c'est par le point de vue de la phusis fin qu'il donne le point de vue de l'acte. Et d'une certaine manière, le point de vue du lieu et du temps, qui sont des mesures, viennent montrer le point de vue, mais le lien entre la fin immanente dans le mouvement et le point de vue du tout. C'est très vrai qu'à partir du chapitre 5, on est orienté vers le point de vue de la totalité de l'univers, qui amènera la question de savoir si il y a quelque chose au-delà du mouvement. Et puisque toute la physique se termine par la découverte d'un premier immobile. Oui, cette démarche, il faut essayer de comprendre ça parce que c'est important et c'est pas toujours très précis à bien voir. De l'expérience, ce qui est mu, opposé au mouvement artificiel, au mouvement naturel. Vous y causez un mouvement qui est naturel, opposé au mouvement artificiel. On aboutit à la découverte de la phusis, principe efficient, principe immanent de ce qui est mu en tant qu'il est mu. Nature forme, nature matière, et la nature forme conduit à la fin, nature fin, la nature est fin, ce qui permet de comprendre comment le mouvement est acte de ce qui est en, de ce qui est mu, acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Alors vous voyez, c'est là le point de vue assez délicat de voir ce passage de la nature fin au mouvement défini comme acte. Parce que la nature n'est pas le mouvement, c'est le principe. L'acte, le mouvement, c'est comme l'effet, c'est comme le fruit. Et le mouvement est saisi comme acte à partir de la nature fin, de la nature forme. Ce mouvement est déterminé, ce mouvement implique ce point de vue de la fin. Donc, et en même temps, la nature est en matière. Ce mouvement implique toujours l'acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Et le prolongement de la saisie de la nature principe dans le point de vue de l'exercice même de cette nature, qui est le mouvement. Et le mouvement se traduit alors par acte et puissance. C'est assez étonnant, du reste, de bien voir ce passage des causes à l'exercice même de ses causalités dans la réalité. Donc cette double lecture du mouvement, une lecture du mouvement qui se fait d'une façon descriptive, opposant et distinguant le mouvement naturel du mouvement artificiel, et une lecture du mouvement qui se fait en profondeur par la phusis, par la phusis fin, qui demeure dans l'immanence. Puisque la fin de la nature fin demeure immanente à ce qui est lieu. Mais ce qui permet alors de lire, de saisir le mouvement comme l'acte de ce qui est en puissance. Vous avez ensuite la diversité des mouvements et puis le point de vue du lieu et du temps qui restent des mesures. Comme un au-delà. C'est un au-delà. On n'est plus dans l'immanence, puisque on est dans la mesure. Avec le dépassement du corps dans le corps supérieur, le dépassement de la succession du mouvement par le point de vue du temps. Donc deux mesures extrinsèques. Nous avons ensuite alors, avec le chapitre 5, vers 6 et 7, regardons bien ça, bien saisir ce dépassement vers une réalité qui est au-delà. Des mouvements, l'opposition du mouvement au repos. C'est toute une série de propriétés du mouvement, de caractères propres du mouvement. Le chapitre 6 montre le point de vue de la finité dans le mouvement et le point de vue du continu dans le mouvement. Donc c'est encore la question de l'unité du mouvement. Qu'est-ce qui fait l'unité du mouvement? C'est le point de vue de la continuité. Et puis toujours la question du mouvement et du repos. C'est très curieux. Ça tracasse beaucoup Aristote. Y a-t-il un repos? Là, sûrement qu'il y a une question importante par rapport à la relativité des physiciens d'aujourd'hui. On va revenir là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que je crois que tout ça est ordonné au livre 7 et au livre 8. Et ça, je voudrais les voir avec vous. L'existence du premier moteur. L'éternité du mouvement. L'existence et la nature du premier moteur. Et on passe du temps à l'éternité. Alors, je crois que c'est une question, les chapitres 5 et 6, c'est voir le pose de ce qui est lu dans sa contrariété et dans la question du repos. Alors, avant de regarder ça, je réponds à la question posée tout à l'heure, on avait commencé. Lire cette question posée. Donc le mouvement est l'acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. La mesure du mouvement est le temps, les mesures. C'est ça qui est important. Et la mesure du temps n'est-elle pas les modalités de l'acte dépassant le mouvement et l'immanence du devenir? La mesure du temps. Y a-t-il une mesure du temps? C'est l'instant. Ce n'est pas une mesure, mais c'est ce qui actue. C'est la référence. Ce que je disais, le temps est en référence à autre chose. Ne peut-on pas distinguer diverses mesures du temps en fonction des diverses modalités de l'acte? Alors on prend les modalités de l'acte. Vous voyez, alors là, je ne suis plus d'accord. on fait l'application de la métaphysique à la physique. Tandis que je crois profondément que la philosophie de la nature est une philosophie qui a sa propre organisation à partir de la nature. N'appliquez pas des distinctions propres à la philosophie première, à la philosophie de la nature. Oui, alors diverses modalités de l'acte, laissez pour les réalités créées. Et voyez, les réalités créées, vous n'êtes plus dans le point de vue physique. Vous êtes dans un point de vue métaphysique et théologie naturelle. L'opération vitale pour les vivants, oui, vous êtes dans une perspective qui n'est plus de la philosophie de la nature. Oui. Alors, ce qui est la question très délicate, et ça je crois que ça vaut la peine de la poser, qu'est-ce qu'il y a comme intelligibilité nouvelle de ce qui est mu par le point de vue du lieu et par le point de vue du temps, parce que ça donnerait réponse, je crois, à la question posée. Et c'est comme ça qu'on doit se poser. Vous voyez, quand je prends le point de vue du mouvement et l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance, je demeure là dans l'intelligibilité philosophique de ce qu'est le mouvement. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Le mouvement actue le corps. C'est l'acte du corps, surtout si je pense à la philosophie de la nature par rapport à l'homme, puisque c'est ça qui m'intéresse. La philosophie de la matière par rapport à l'homme. Bon, le mouvement actue. Mais le mouvement actue d'une manière telle qu'il n'actue jamais d'une manière séparée. Il actue comme l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Et donc, il n'y a pas de dépassement par le mouvement. Et je crois que c'est ça qui intéresse Aristote. Il n'y a pas de dépassement. Le mouvement demeure immanent au monde physique. Oui, d'où la question, est-ce que le monde physique fait appel à autre chose que le monde physique? Ou est-ce que le monde physique a son intelligibilité propre en tant que monde physique? Vous voyez la question? C'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, d'une certaine manière, c'est le mouvement comme acte demeure immanent. Il demeure immanent parce qu'il est absorbé, j'allais dire, par ce qui est en puissance. La matière est tellement en puissance, puisqu'elle est une puissance substantielle, qui de fait rattrape le devenir et l'empêche de donner un dépassement. Et on comprend très bien que ça, c'est la grosse question d'Aristote. Est-ce que le monde physique, le cosmos, a sa propre finalité en lui-même? Est-ce que le cosmos fait appel à autre chose que le cosmos? Et sur toute cette vision qu'on avait de l'âme du monde. Alors, Aristote ne parle pas de l'âme du monde, vous voyez là. C'est qu'au fond, il parlera, il posera la question par rapport au corps céleste, mais pas dans la physique. Et ça qui est intéressant, c'est l'acte. Il dit pas l'âme. L'acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. En tant qu'acte, l'acte sépare, l'acte dépasse. Et le mouvement est un acte immanent à une réalité en puissance. Ça, il faut comprendre. Cependant, il y a deux dépassements du mouvement. Le lieu et le temps. C'est pour ça que ça va bien du côté de l'acte. Il y a deux dépassements. Le lieu, qui est un dépassement du corps par un corps supérieur. ça c'est aussi très curieux. Et c'est quand même très important, nous l'avons essayé de comprendre dans Aristote, mais on peut essayer de le comprendre aussi le corps, ou l'élément, peu importe. Parce que le corps, ça fait tout de suite pareil au corps vivant. Je prends les éléments, si vous voulez, les réalités physiques. Mettez les réalités physiques. La réalité physique est toujours une partie qui a besoin d'un tout. C'est peut-être cela qu'on doit le mieux comprendre dans cette recherche du lieu. Le monde physique, qui est le monde du mouvement. Parce que ce monde physique est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Ce monde physique fait appel au tout, à un tout. Donc il ne peut pas se penser philosophiquement uniquement lui-même. C'est une partie d'un tout. D'où la question du lieu, puisque le lieu, c'est la limite de ce qui est l'enveloppant par rapport à l'enveloppé. Donc toute réalité physique demande de s'achever dans une autre réalité physique, l'enveloppant. Et c'est le lieu. Et c'est le lieu qui peut être le lieu de repos. Et la question du lieu est liée à la question du repos. Puisque c'est la limite. Donc c'est là où le mouvement local s'arrête. C'est ça le lieu. Donc le lieu, c'est la partie, une réalité physique, qui fait appel à une autre réalité physique, qui l'achève, qui lui permet de trouver un repos. Très curieux, la question du repos chez Aristote. Ça vaudrait la peine de l'étudier de très près. Le repos naturel, parce que c'est lié au lieu. Et c'est lié à l'achèvement. Oui, puisque le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Le lieu montre un dépassement du mouvement dans le corps enveloppant. Qui est le lieu et qui permet le repos. Parce que si le mouvement est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance, je ne vois pas de limite à ce mouvement. Puisque ce qui est en puissance n'est jamais totalement actué. Puisque c'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc c'est toujours la puissance qui a le dernier mot. Dans le monde physique, c'est toujours la puissance qui est le dernier mot. Parce que justement, la nature matière est substantielle. Elle est fondamentale. Elle est première. Alors, qu'est-ce qui va permettre l'arrêt du devenir, du mouvement? C'est le lieu. Oui, c'est curieux. C'est très curieux.
Oui. Peut-on dire que le lieu, c'est le lac du mouvement?
Et c'est à mesure. Et c'est extrinsèque. Alors ce serait l'acte de l'acte. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Quand il dit péras, et c'est une fin très particulière. Ce que j'avais essayé de montrer, c'est très difficile à exprimer, mais c'est une fin très particulière, le lieu. Extrinsèque. D'où le repos. Parce que le monde physique n'a pas de finalité extrinsèque en dehors du lieu. L'acte de ce qui est en puissance entre qui est en puissance. Oui. Donc le lieu va permettre et va expliquer le repos. Parce que c'est sûrement une des très grandes préoccupations d'Aristote. Qu'est-ce que c'est que le repos? Je ne peux pas pas rester dans le devenir pur. L'âme de ceux qui sont en puissance en tant qu'il est en puissance. Et deuxièmement, la question du temps. Alors, la question du temps fait appel à l'homme, à l'intelligence humaine, fait appel à l'ordre. Ce que le lieu ne dit pas, le temps va plus loin. Par l'instant existant, je saisis là encore une obligation de cet acte de s'achever dans quelque chose qui n'est plus le monde physique. Qui est l'intelligence. Pouvons-nous dire ça? Je pose des questions, parce que c'est des choses qui doivent un peu nous tracasser. Étant donné qu'Aristote dit ça très calmement, et ça va très loin. Vous voyez, je voudrais reprendre ça. Le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Donc il y a une réduplication. Une réduplication sur la puissance. S'il y a une réduplication pour la puissance, ça prouve que l'acte n'épuise jamais la puissance. Bon, si l'acte n'épuise jamais la puissance, vous voyez, et ça la science moderne ne fait que confirmer par la relativité du mouvement. Tout ce qui est physique est toujours en mouvement. Pas de taille. Et donc, l'acte, le mouvement physique ne trouve pas dans le monde physique ce qui est propre à l'acte de vraiment finaliser et de vraiment permettre un repos. Donc le monde physique n'explique pas le repos. C'est ce que les biologistes disent aujourd'hui, je me souviens très bien, dans ce que professeur Marois disait, le repos n'existe que chez le vivant. Ce qui légitime votre repos. Alors ça ne veut pas dire plus je suis vivant, plus je me repose. Le rythme et le repos n'existent que chez le vivant. Dans le monde physique, il n'y a pas de repos. Le monde physique est un monde sans repos. L'acte de ceux qui sont en puissance en tant qu'ils sont en puissance. Et pourtant, le monde physique est ordonné au vivant. Donc, le mouvement, d'une certaine manière, est ordonné au repos. Ce qui aurait de légitime. Voyez, chez Freud, si nous étions des mondes purement physiques, si nous étions des plantes purement, si nous étions des réalités purement physiques, ce serait juste de dire que le repos finalise le mouvement. Donc, je suis éveillé pour dormir. Ceci est vrai au niveau purement physique. Je suis réveillé pour dormir. Parce que le repos, vous voyez, c'est la victoire de l'acte sur la puissance. Parce que ce qui est en puissance ne peut être actué que par le mouvement. Et donc, le mouvement est donc une victoire de la détermination sur ce qui est en puissance. Le monde physique demande d'être en mouvement. C'est par là qu'il est actué. Alors, pour exprimer comment, cependant, le mouvement est acte, et en tant qu'acte, demande un dépassement par rapport à la puissance, nous avons ces deux aspects du lieu qui mesurent. De ce qui est mu, donc de ce qui est en puissance. En tant qu'il est en puissance, le lieu est donc montré par rapport à ce qui est mu un certain dépassement. certaine victoire de l'acte sur la puissance. Le lieu représenterait ça. Certaine victoire de l'acte. Et donc, une possibilité de repos. Je ne peux expliquer le repos dans le monde physique que par le lieu. Parce qu'il est mesure de ce qui est mieux. Alors pour Aristote, ce repos, il a peut-être un peu chosifié, comme on dirait aujourd'hui. Trop rapidement, dit le repos au centre de la terre. Mais il y a quelque chose de juste, c'est que le mouvement physique porte en lui une orientation vers le repos. Ne peut pas être uniquement et uniquement en mouvement. Parce que l'acte est quand même toujours un peu victorieux, bien qu'il soit absorbé par la puissance. Et son repos va se faire au niveau physique par le corps supérieur, immédiat, le lieu. Donc vous voyez comment le lieu, qui est objet d'expérience, on avait dit le mouvement local, que j'expérimente. Donc je suis bien obligé d'expliquer ce mouvement local et d'expliquer ce mouvement local qui s'arrête. Le lieu va exprimer du côté une certaine victoire de l'acte sur la puissance, puisqu'il va permettre le repos, la cessation du mouvement, mais pas négativement, positivement. Parce que négativement, ce serait justement le retour à la puissance. Et le retour à la puissance, ce serait le désordre. Tandis que le lieu et le repos n'est pas un désordre. C'est au contraire un dépassement. Donc au fond, le lieu exprime, et le lieu qui permet le repos du mouvement local, exprime une certaine victoire de l'acte sur la puissance. Le temps. Le temps avec l'instant. Le temps qui implique un ordre. Le passé et le futur. Et par l'ordre et par l'instant, va impliquer le moyen de l'intelligence qui mesure et qui ordonne le passé et le futur.
Le lieu est une certaine finalité. Vous dites une victoire de l'acte sur la puissance, est une certaine finalité.
Une certaine finalité. Mais une finalité limitée, ce qu'on disait. Certaines finalités, mais une finalité limitée. Et c'est une certaine finalité, ça implique le repos. Vous ne pouvez vous reposer que quand vous avez atteint, vous voyez, l'entelekeia, puisque l'acte, le mouvement, est entelekeia, en vue de energeia. En vue de l'acte. Et il me semble bien que dans le monde physique, si je veux aller jusqu'au bout de la pensée d'Aristote, dans le monde physique, il y a un appel au repos. Et cet appel au repos est exprimé par le lieu. Mais c'est un repos très limité. C'est une finalité très limitée. C'est pour ça qu'il est hyperas. C'est une fin. C'est l'arrêt. Le repos est un arrêt. Oui, un arrêt momentané. Il faut reposer pour reprendre après. Oui.
Et qui est l'énergie dans le monde physique?
Il ne le dit pas. L'hyperas. L'hyperas. Ouais. C'est l'arrêt de l'énergie. De l'énergie, je veux dire. J'essaie de comprendre la signification profonde de tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit essayer de comprendre, mais qui n'est pas commode, c'est explicité de façon très particulière, et que nous devons purifier tout cela pour que, de fait, ce que nous disons ne soit pas en opposition avec ce que nous pouvons découvrir au point de vue de la science. Et ça exige une purification très grande de la pensée d'Aristote, et aller plus loin, mais aller dans son sens. Alors, le temps. Le temps qui ne, qui n'est formel que grâce à l'intelligence humaine. Tandis que le lieu est formel par lui-même. Alors, le temps fait appel à l'intelligence humaine. Le temps, qu'est-ce qu'il va montrer comme victoire de l'acte sur la puissance? C'est ça qui m'intéresse, je crois, dans la question des mesures. Il y a un lien. La mesure est acte. La mesure, vous savez bien comment Aristote définit la mesure. C'est l'un qui mesure le multiple. Donc, c'est l'acte du côté propriété de l'être. C'est l'un. C'est pas l'acte au sens absolu, c'est du reste le glissement de l'acte vers l'un, c'est la mesure. La cause formelle implique toujours une certaine indivisibilité et qui ramène la multiplicité à l'unité. Ça, c'est le propre de la mesure, c'est ramener la multiplicité à l'unité. On ramène la potentialité présente dans le mouvement, dans ce qui est mu, par l'acte, c'est le lieu. Cela. C'est propre de la cause exemplaire. On ramène la multiplicité à l'unité. Donc il y a une intelligibilité nouvelle qui est la victoire de l'acte dans le monde physique. C'est le lieu. Alors comment cette victoire de l'acte va être présentée dans le point de vue du temps? C'est d'ordonner. C'est de faire que la succession, venez. Le mouvement, il est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc cet acte est enveloppé de puissance. Le mouvement présuppose la puissance. Le mouvement, je ne dis pas engendre la puissance, mais le mouvement implique encore une puissance après. Et donc, on est dans la juxtaposition absolue quand il s'agit du mouvement physique. Une juxtaposition continue. Or, une juxtaposition fait que tout ce qui est passé est perdu, tout ce qui doit arriver est perdu, du moins n'est pas encore là. Donc, il faut, par l'instant présent, la seule chose qui existe dans une réalité en devenir. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Il s'agit de récupérer le passé et d'annoncer le futur. C'est une récupération étonnante, le temps. Et c'est peut-être ça qui est donné dans le temps, cette récupération que l'intelligence humaine fait à l'égard d'un pur devenir physique. Grâce à l'instant présent. Je récupère le passé, je récupère le futur. En montrant qu'il y a un ordre. Il faut récupérer le passé et il faut projeter sur le futur pour avoir cet ordre du temps. Pour comprendre que dans le temps, je mesure ce qui n'existe que dans l'instant présent. Et c'est vrai que quand vous réfléchissez sur l'instant présent, c'est un peu vertigineux de voir que la réalité qui est en mouvement n'existe que dans l'instant présent. C'est fugitif. Et donc, on veut récupérer pour donner une certaine continuité. Une continuité qui n'existera que grâce à l'intelligence humaine. On récupère. Le temps, c'est récupérer le passé et mettre la main des choses sur le futur pour avoir un ordre. Et alors, cela ne peut se faire que par l'intelligence humaine. Donc, ce qui montrerait qu'un monde purement physique, sans l'homme, est un monde dans lequel le lieu peut exister, il n'y aurait pas d'ordre. C'est l'intelligence qui est capable de récupérer le passé. Et c'est bien ce qu'on voit dans la philosophie, vous voyez, récupérer le passé, l'histoire. On récupère le passé, on fait revivre le passé. Et parlant, on peut projeter sur le futur. On a une possibilité de regarder le futur grâce à cette récupération du passé. S'il n'y avait pas l'intelligence humaine, on ne pourrait pas. Alors, c'est quand même très curieux, ça. Parce que ça nous montre que le mouvement acte ne pourra ordonner que grâce à quelque chose qui est extérieur au monde physique.
Parce que là, l'intelligence du nombre n'est pas énergie.
Elle est d'une certaine manière énergie en tant qu'elle mesure. Mais la mesure n'est pas l'acte non plus parfait.
Là, il y a une mesure extrinsèque.
Venez. Oui, il y a une mesure extrinsèque. Mais qui dit une mesure extrinsèque ne dit pas un acte parfait. C'est une mesure extrinsèque. Mais la mesure extrinsèque, c'est une déficience de quelque chose de transcendant. C'est pas une transcendance absolue. C'est une mesure extrinsèque, fabriquée par l'homme, pour donner au monde physique sa pleine intelligibilité qu'il n'a pas par lui-même. Alors voyez, c'est curieux comme chose. C'est que le monde physique va s'achever, se compléter par l'intelligence humaine qui va mesurer ce qui est vu par l'instant présent, récupérer le passé, le futur. Il me semble que c'est la réalité du temps, ça. Pourquoi avons-nous besoin de penser le temps? C'est pour que le monde physique, j'allais dire, soit moins quelque chose qui nous échappe complètement. Pour le récupérer. On le récupère humainement. Et alors on comprend très bien l'intérêt de tout le passé aujourd'hui. Vous voyez, on est un siècle de l'histoire, on est un siècle de toutes les formations antérieures. Tout l'aspect géologique intéresse follement. C'est pour que ce monde physique s'humanise. Une sorte d'incarnation du monde physique, vous voyez. Autant que l'homme peut le faire. Par le temps, il met sa main, il met sa mesure sur quelque chose qui fuit tout le temps. Le monde physique, nous ne pouvons pas, il est fugitif et n'arrivons pas à le posséder. Puisqu'il n'est en acte que par l'instant présent. Et alors on essaie de récupérer. On essaie de donner, vous voyez, une intelligibilité à quelque chose de terriblement anarchique. Puisqu'il fuit tout le temps. Et on essaie par là de donner une certaine intelligibilité. Et vraiment en le mesurant. En y mettant la marque de l'intelligence. Oui.
Est-ce que le temps n'est pas plus fondamental que le lieu pour l'intelligibilité du mouvement de feu?
Sûrement.
C'est un nombre d'expériences passées.
Oui, tout à fait. Et puis, il est ultime. Le lieu est avant. Et il y a le temps. Vous voyez, le lieu, c'est bien une certaine victoire de l'acte sur la puissance. Mais c'est une pérasse, ce que tu sais. Le temps est ordre. Mesure. Vous voyez ? Et c'est bien plus que la limite, même si cette limite est une limite enveloppante. Et puis comme vous dites, on récupère tout le passé, on redonne par là une intelligibilité à tout ce mouvement. Une montagne faite par toutes ces couches successives de transformation est quelque chose de plus intelligible qu'une matière brute. Et c'est vrai quand on regarde la formation d'une montagne. C'est impressionnant. Ça parle à notre intelligence.
l'intelligence humaine qui récupère. Et je crois que c'est pour montrer justement que ce monde physique comme tel, sans l'homme, son intelligibilité est très faible.
Oui. Il y a des successions des instants qui permettent de saisir le devenir.
C'est la seule chose qui existe. Oui, oui, mais l'intelligence dépasse l'instant par le point de vue du passé. Pour ça, j'utilise une récupération de l'intelligence. C'est pas la victoire de l'acte. Oui, c'est au contraire montrer le côté extrêmement précaire, la précarité du devenir dans le monde physique. Pour être parfaitement intelligible, a besoin de l'intelligence, a besoin du concours, du complément de l'intelligence, qui récupère tout le passé et qui récupère le futur. Moi, qui devance ce futur.
En tant qu'intelligence, dépasse le déroulement.
Tout à fait.
C'est une mesure du déroulement.
Ah, c'est une mesure du déroulement. Mais je crois que ça montre la précarité du monde physique. Le temps montre la précarité du monde physique. Le lieu montre qu'il y a un ordre dans le monde physique. Vous voyez ? Tandis que le temps montre que le monde physique n'a pas d'ordre par lui-même. Et que le monde physique est une attente d'autre chose. Je crois que c'est ça le temps, la signification du temps. Le monde physique ne peut pas, tandis que le lieu reste encore dans le monde physique. Alors, vous voyez, ça expliquerait ce chapitre 5, ensuite, où Aristote va montrer la continuité du mouvement. La continuité, c'est-à-dire l'unité. Pouvons-nous découvrir dans le mouvement une certaine unité immanente au mouvement? Donc, les résultats de l'acte dans la puissance. Et ceci va conduire alors au dernier effort d'Aristote de montrer comment le mouvement, ce qui est mu, exige un premier moteur. Un premier moteur